Chapitre 7. D'une pierre à l'autre. Depuis des temps immémoriaux, les pierres témoins se dressent, inébranlables, face aux tempêtes et aux tremblements de terre, sur la colline des témoins, près du château de Castelserre. Nul document n'indique qui les a levées là. Certains leur prêtent l'âge des fondations même de la citadelle, d'autres les disent plus vieilles encore. Diverses traditions se sont développées autour d'elles. Les couples y viennent prêter leur serment de mariage, car selon la légende, qui profère un mensonge devant elle sera puni par les dieux eux-mêmes. On affirme aussi que si deux hommes se battent à leurs pieds pour trancher un différend, les pierres les regarderont et donneront la victoire à celui qui dit la vérité. Il existe de semblables colonnes dressées partout dans les six duchés et ailleurs, apparemment toutes taillées dans la même roche noire et fixées solidement dans le sol afin de résister aux éléments. Certaines sont ornées de runes, d'autres présentent un aspect lisse, mais un examen minutieux révèle des traces de glyphes dégradés par les intempéries ou effacés à coups de burin. Nous n'avons pas trouvé mention de ces piliers dans les manuscrits d'art que nous possédons, mais il est pratiquement sûr qu'ils servaient aux anciens de moyens de déplacement rapide. Je joins au présent document une carte où figurent tous les piliers d'art, ainsi que nous les avons baptisés, connus. Elle s'accompagne d'une légende qui indique précisément quelle rune correspond à quelle destination. Bien que certains piliers d'art semblent aux néophytes dénués de toute marque, l'artiseur expérimenté peut néanmoins les employer pour voyager. Toutefois, cela ne signifie nullement qu'il faille laisser les débutants les emprunter seuls. Au contraire, ils doivent toujours être escortés par un utilisateur chevronné et ne se servir des pierres pour se déplacer qu'en cas d'absolue nécessité. L'expérience peut se révéler pénible pour le novice et mener à un épuisement total, voire, en cas d'abus, à la folie. Des piliers d'art, humbre tombe étoile. Le fragile processus de rétablissement du fou s'effondra aux premières heures du matin. J'ouvris les yeux en l'entendant sursauter et se débattre dans son sommeil, et quand je voulus l'éveiller, je le trouvai chaud et ne pus le tirer de ses cauchemars. Je m'assis près de lui, lui pris la main et lui murmurai des propos apaisants afin de le conduire vers des rêves moins agités. Mal à l'aise, je sentais l'homme noir qui, allongé sur son lit, nous observait en silence. Je ne voyais pas ses yeux, mais je les savais posés sur moi. Il nous mesurait du regard et j'ignorais pourquoi. À l'aube approchante, Humbre frappa à mon esprit. À contre-cœur, je le laissai entrer.
« Tu peux rentrer à présent. Voici l'histoire que tu raconteras. Le prince et moi t'avons renvoyé avant tout le monde, avec Lourd à bord d'un navire marchand, parce que Lourd ne supportait pas les conditions de vie et que tu devais rapporter le plus vite possible des informations importantes à la reine. On te croira, je pense, à condition que tu évites de donner trop de détails. Je me réjouis d'avance de ton retour à Castelserre. » Orti fait du bon travail, mais nous devons nous montrer extrêmement prudents quant au rapport que nous lui demandons de transmettre et prendre grand soin de ne pas outrepasser ses capacités. Il devient impératif que je dispose de quelqu'un sur place à qui je puisse confier sans risque les renseignements destinés à Sa Majesté.
Impossible pour le moment, Humbre. Le fou vient de tomber malade. Il n'est pas en état de voyager. Le vieillard se tut quelques instants.
« D'après ce que tu disais, tu n'aurais pas à le transporter très loin, jusqu'au pilier d'art seulement, d'où il arriverait directement à Castelserre, au chaud, en sécurité, avec des guérisseurs pour s'occuper de lui. »«
J'aimerais que ce soit aussi simple. Le chemin qui mène au pilier est très périlleux, et il fait froid. En outre, le fou supporte difficilement les déplacements d'art. Je ne veux pas risquer de l'affaiblir encore. Il a déjà vécu de trop dures épreuves. »«
Je comprends. »
Je sentis Humbre réfléchir à ma déclaration.
« À ton avis, sera-t-il remis d'ici demain? Je puis à la rigueur t'accorder un jour supplémentaire. »
Je pris un ton ferme. « Je n'en sais rien. Mais je lui laisserai tout le temps dont il aura besoin, Humbre. Je refuse de le mettre en danger. »
« Très bien. »
L'agacement se mêlait à l'acceptation dans sa pensée.
« S'il le faut. »
« Il le faut, » répondis-je catégorique. Nous rentrerons quand le fou aura recouvré des forces, pas avant. Quand le matin arriva, l'angoisse me rongeait. Je n'ignorais pas que nombre de ceux qui meurent de blessures reçues au combat succombe au bout de plusieurs jours aux fièvres, aux fluxions et à la gangrène. Le trajet jusqu'à la grotte avait contrarié sa convalescence et exigeait bien des jours de repos. Le fou dormit d'un sommeil lourd jusqu'en début d'après-midi, puis il s'éveilla, les yeux collés, hagard, et but plusieurs tasses d'eau à la file. Prilcop insista pour que nous l'installions sur son lit. Le fou parcourut entre nous deux la courte distance d'un pas chancelant, puis s'effondra sur la paillasse de l'homme noir, exténué, et sombra aussitôt dans l'inconscience. Son front était chaud sous ma main. « Il souffre peut-être seulement d'une de ces phases de mue, » dis-je à Prilcop, « je l'espère. Je préférerais ça à une infection. Il restera fiévreux et faible plusieurs jours, puis il se mettra à peler comme après un coup de soleil, et la nouvelle peau aura une teinte plus sombre. » S'il s'agit de ça, nous ne pouvons pas faire grand-chose, sinon veiller à son confort et prendre notre mal en patience. Prilcop lui toucha les joues et me sourit.
« Ça, je pense que c'est.
À certains de nous, ça arrive.
Le mal-être passe. »
Puis il ajouta en regardant le fou,
« S'il n'y a que ça. »
Il secoua la tête.
« Les blessures, à lui, étaient nombreuses. »
Une question me vint et je la posai sans m'interroger sur sa bienséance. « Pourquoi avez-vous changé? Pourquoi le fou change-t-il? » La femme pâle est restée blanche, elle. Il écarta les mains en signe de perplexité.
« J'ai pensé beaucoup de fois à ça. Peut-être, comme nous faisons le changement, nous changeons. Les autres prophètes, qui restent blancs, parlent souvent beaucoup. Mais font peu. Lui et moi, dans notre jeunesse, beaucoup de changements nous avons prédits. Puis nous sommes allés faire les changements. Alors peut-être nous avons changé, nous, en même temps.
Mais la femme pâle a aussi œuvré pour modifier le monde. Il sourit avec une satisfaction farouche.
Elle essaie et elle échoue. Nous gagnons. Et nous changeons.
Il inclina la tête de côté.
Peut-être. Je suis vieux et je pense comme ça.
Il jeta un coup d'œil au fou endormi et prit l'air songeur.
De repos, il a besoin. Dormir et bien manger. Et calme. Vous et lourd, allez pêcher. Du poisson frais fera du bien à lui.
Je fis un geste de dénégation. Je refuse de le quitter dans l'état où il est. Avec douceur, Prilcop posa la main sur mon épaule.
Vous le rendez agité. Il sent vous inquiet. Pour le repos de lui, vous allez dehors.
Près de la cheminée, lourd intervint.
On devrait rentrer chez nous. Je veux rentrer à la maison.
Je sursautai en entendant le fou m'appeler d'une voix rauque.
Fitz.
Je bondis aussitôt à son chevet, une tasse pleine d'eau à la main. Il se détourna quand je l'approchais, mais j'insistai et l'écartai seulement quand il me fit signe qu'il n'avait plus soif. «
Désires-tu autre chose ?»
Ses yeux brillaient de fièvre.
« Oui, que tu retournes aussi, duché. »
« Il délire, » dis-je après le cop. « Je ne peux pas l'emmener dans cet état. » Le fou prit une grande inspiration et déclara péniblement.
« Non. » Je ne délire pas. Emmène lourd. Rentre. Laisse-moi ici.
Une quinte de tout le saisit, et d'un geste, il me demanda de l'eau. Il but à petite gorgée, puis respira encore une fois profondément. Je l'aidai à se rallonger dans ses couvertures.
Il n'est pas question que je t'abandonne ainsi. Je resterai aussi longtemps qu'il le faudra.
Ne t'inquiète de rien. Tu me trouveras toujours près de toi.
« Non !»
Il s'exprimait du ton irritable et là des malades.
« Écoute-moi, je dois rester ici, quelque temps, avec Prilcop. J'ai besoin de comprendre où je suis, quand je suis. Fitz, lui, peut m'aider. Je ne vais pas mourir, tu le sais. Je mue, c'est tout. Ce que je dois apprendre, je dois l'apprendre seul. Rester seul un moment. J'ai besoin de réfléchir seul. Tu comprends, je le sais. J'ai été toi.
Du bout de ses doigts amaigris, il se frotta les joues et le front. Sa peau sèche se plissa, puis se détacha en lambeaux, qui laissèrent voir la nouvelle teinte, plus sombre, de son visage. Il tourna les yeux vers Prilcop.
« Il doit partir, » dit-il,
comme si l'homme noir pouvait m'obliger à m'en aller.
« On a besoin de lui, chez lui, et lui a besoin de rentrer chez lui. »
Je m'assis par terre près du lit. Je comprenais. Je me rappelais ma longue convalescence à la sortie des cachots de Royal, le désarroi qui me poignait. On sort humilié de la torture. Céder, hurler, supplier, promettre. Si l'on n'a pas vécu cela soi-même, peut-être est-on incapable de le pardonner à un autre. Le fou avait besoin de solitude pour revoir l'image qu'il avait de lui-même. Je n'aurais pas voulu que Burick me posât 1000 questions. Je ne voulais même pas de sa sollicitude, ni de sa prévenance. Instinctivement, il l'avait compris, et m'avait laissé rester des journées entières assis, les yeux dans le vague, au milieu d'une prairie ou au sommet d'une colline. Accepter que j'étais un homme et non un loup avait été pénible. Accepter que j'étais toujours le même homme l'avait été encore davantage. Le fou sortit une main émaciée de ses couvertures. Il me tapota gauchement l'épaule, puis caressa ma barbe du bout des doigts.
« Entre et profite-en pour te raser. »
Il fit un effort pour sourire.
« Laisse-moi me reposer, Fitz. Laisse-moi seulement me reposer. »
Très bien. Je m'efforçais de repousser le sentiment qu'il me chassait. Je me tournais vers Lourdes. Dans ce cas, je te ramène à la maison. Habille-toi chaudement, mais inutile de préparer ton paquetage. Nous serons à Castelserre avant le matin.
Et on aura chaud ?
Demanda-t-il avec une soudaine fébrilité.
Et de bonnes choses à manger ? Du pain frais et du beurre, du lait et des pommes, des gâteaux et des raisins secs, du fromage et du jambon, cette nuit ?
Je ferai mon possible. Apprête-toi et avertis Imbre que nous revenons ce soir. Je dirai aux gardes de la porte que nous sommes rentrés plus tôt que prévu, par le premier bateau, parce que tu avais froid.
« C'est vrai, j'ai froid, »
acquiesça-t-il de tout cœur.
« Mais pas de bateau, tu as promis. »
Je n'avais rien promis, mais j'opinais du bonnet. « Pas de bateau, prépare-toi, Lourdes. » Je me retournai vers le fou. Il avait fermé les yeux. Je murmurai. « Eh bien, tu as ce que tu voulais. » Comme d'habitude. J'emmène Lourdes. Je resterai absent, un jour, deux au plus, mais ensuite je reviendrai, et je rapporterai des vivres et du vin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'aimerais-tu manger?
As-tu des abricots?
Fit-il d'une voix défaillante. À l'évidence, il n'avait pas tout compris. J'essaierai de t'en trouver, répondis-je. Je doutais fort d'y parvenir, mais... je m'en serais voulu de le contrarier. Doucement, je repoussai des mèches de cheveux de son visage brûlant. Je les sentis raides et sèches. Je regardai Prilcop, qui acquiesça lentement de la tête à ma supplique muette. Avant de partir, je remontai les couvertures sur les épaules du fou, puis je me penchai, et bien qu'il eût les yeux clos, appuyai mon front contre le sien. « Je ne tarderai pas à revenir, » promis-je. Il ne répondit pas. Peut-être s'était-il déjà rendormi. Je me redressai et m'écartai du lit. Prilcop nous souhaita bon voyage à l'entrée de la grotte. « Prenez soin de lui, » recommandai-je à l'homme noir. « Je serai de retour demain. Veillez à ce qu'il mange. » Il secoua la tête. « Pas si tôt. Déjà, vous avez utilisé les portes trop de fois, trop rapprochées. » Il mima l'extraction de quelque chose de sa poitrine. « Ça prend de vous, et si vous n'avez plus assez de vous, ça peut vous garder. » Il plongea son regard dans le mien, comme pour s'assurer que je comprenais. Ce n'était pas le cas, mais je hochai la tête et répondis. « Je ferai attention. »«
Adieu, homme lourd. Adieu, changeur du fou. »
Puis en désignant mon ami endormi du menton, il ajouta.
« Je veille sur lui. » « Plus que ça. » « Personne ne peut. »
Enfin, l'air gêné, il demanda.
« Le petit homme a dit fromage.
Fromage?
Oui.
Je vous en rapporterai, et aussi des herbes à tisane, des épices et des fruits, autant que je pourrai en prendre.
Quand vous pouvez revenir, sans danger, j'aurai plaisir.
Il rayonnait de bonheur. Nous le remerciâmes encore de son aide, puis nous nous mîmes en route. Le vent nocturne s'était levé et il faisait froid. L'ours, s'accrochant à la moindre de ses affaires, avait obstinément refusé d'abandonner son paquetage, si bien que ce fut chargé de son sac qu'il me suivit le long du raidillon qui menait à la faille de la falaise. Le ruissellement l'avait de nouveau rétréci, et je dus dégainer mon épée pour la dégager encore une fois. L'ours, apeuré par les rafales et l'obscurité, répétait en geignant qu'il voulait rentrer à la maison, sans paraître comprendre que je devais d'abord rouvrir le chemin. Je pus enfin me faufiler dans l'infractuosité. Je pris l'ours par le bras et lui fis franchir l'étroite brèche à son tour, bien qu'il y restât bloqué un moment. Il me suivit ensuite, d'un pas qui ralentissait à mesure que nous approchions de l'étrange éclableté.
« Je n'aime pas ça, » dit-il. « On ne rentrera pas chez nous par là. On s'enfonce dans la terre. Il faut faire demi-tour. »
« Non, lourd, ne t'inquiète pas. C'est seulement une vieille magie. Tout ira bien, suis-moi. »«
Tu as intérêt à ne pas te tromper, »
fit-il d'un ton menaçant. Puis il m'emboîta le pas en jetant sans cesse des regards circonspects autour de lui. Plus nous descendions, plus il avançait avec prudence. Quand nous passâmes devant les premiers bas-reliefs des anciens, il eut un hoquet de surprise et recula.
« Les rêves du dragon ? J'ai vu ça dans les rêves du dragon !»
s'exclama-t-il. Puis, il se tourna brusquement vers moi, comme si je l'avais dupé.
« Je suis déjà venu ici, j'en suis sûr maintenant. Mais pourquoi il fait si froid ? Il ne faisait pas si froid !»«
Parce que nous sommes sous la glace. Le froid vient de là. Allons, viens. Cesse de marcher aussi lentement. »«
Il ne faisait pas si froid ?»
Sur cette réponse énigmatique, il se remit en route, mais pas plus vite qu'avant. Je croyais avoir gravé le trajet dans ma mémoire, mais je me trompais deux fois d'embranchement et dus rebrousser chemin, ce qui accentua la méfiance de l'ours à mon égard. Néanmoins, malgré sa lenteur et mes souvenirs erronés, nous parvînmes à la salle de la carte. « Ne touche à rien, » lui dis-je. J'examinais la représentation du monde en relief et plus particulièrement la rune inscrite près des quatre petits éclats précieux près de Castelserre, qui figuraient, j'en avais la conviction, les pierres témoins. Depuis des générations, on les considérait comme des symboles de pouvoir et de vérité, des portes d'accès aux dieux, et je pensais aujourd'hui connaître l'origine de cette croyance. Je fixais soigneusement le glyphe dans mon esprit. « Viens, lourd, il est temps de rentrer chez nous. » Il ne répondit pas. Je lui touchai l'épaule et il leva lentement le visage vers moi. Il s'était assis par terre et d'une main avait frotté le carrelage poussiéreux, dégageant un fragment de scène pastorale. Il affichait une expression presque hébétée.
« Il aimait bien vivre ici, »
murmura-t-il.
« Il jouait souvent de la musique. »
« Dresse tes murailles, lourds, » ordonnai-je, mais je n'eus pas le sentiment qu'il obéit. D'une poigne ferme, je lui saisis la main et l'entraînai dans l'escalier qui menait à la salle du pilier. J'ignorais s'il m'écoutait, mais je lui expliquais à plusieurs reprises que nous devions nous accrocher l'un à l'autre pour traverser la colonne et retourner chez nous. Sa respiration profonde et régulière donnait l'impression qu'il dormait à point fermé. Et inquiet, je me demandais s'il réagissait à l'influence de la cité qui s'étendait sous nos pieds. Les pierres témoins, anciennes et usées, opéreraient-elles encore comme piliers d'art ? Je préférais ne pas me poser la question. Après tout, le fou en avait utilisé une, or il disposait d'une magie bien moindre que moi. Je respirai à fond, tirai l'ours par la main d'une légère saccade pour le ramener à la réalité, puis pénétrai résolument dans la pierre, le petit homme à la remorque. Le souffle coupé, j'éprouvai à nouveau une sensation, désormais presque familière, de suspension de l'être. Des ténèbres constellées d'une durée indéterminée parurent s'écouler. Puis je posai le pied sur l'herbe de la colline près de Castelserre. L'ours se trouvait avec moi. Le vertige me saisit, tandis que mon compagnon allait s'asseoir chancelant sur le gazon. La chaleur de l'été s'étendit sur notre peau, et les parfums d'une nuit estivale emplirent mes narines. Sans bouger, je laissai le temps à mes yeux de s'habituer à l'obscurité. Les quatre pierres témoins se dressaient derrière moi, tendues vers le ciel. J'aspirais une longue goulée d'air tiède. Je sentis l'odeur de brebis qui paissait à peu de distance et celle plus lointaine de la mer. Nous étions revenus chez nous. Je m'approchai de Lourdes et posai la main sur son épaule. « Tout va bien. Nous sommes arrivés. Tu vois, je te l'avais dit, c'est comme passer une porte. » La tête me tourna soudain et je m'effondrai à plat ventre. Pendant un moment, je restai allongé en m'efforçant de contenir ma nausée.
« Ah bon? Tout va bien ?»
demanda Lourdes d'un ton pitoyable. « Attends quelques instants, fis-je, haletant. Attends quelques minutes, ça va passer. »
« C'était aussi affreux que le bateau !»
reprit-il, accusateur. « Mais plus court, » répondis-je. « Beaucoup plus court. » Malgré mes affirmations, il nous fallut du temps pour nous remettre et pouvoir nous relever. Il nous restait un bon trajet à parcourir des pierres témoins jusqu'aux portes du château de Castelserre, et Lourdes soufflait et se plaignait bien avant que nous n'arrivions. Apparemment, le passage dans la cité des anciens prise dans les glaces et la traversée des piliers l'avait désorienté et fatigué, et je me faisais l'effet d'un monstre sans cœur à le pousser à se hâter en l'alléchant par des promesses de plats succulents, de bière fraîche et de lits chauds et moelleux. Le soleil levant illuminait notre chemin et nous permettait d'en éviter la plupart des accidents. Nous n'avions guère progressé que je portais déjà le paquetage de Lourdes, puis son manteau et son chapeau. Il aurait continué à se dévêtir si je ne l'en avais empêché. Quand nous parvînmes aux portes de la forteresse, sous le ciel éclatant de l'été, nous transpirions dans nos tenues hivernales. Je pense que les gardes reconnurent mon compagnon avant de m'identifier sous ma barbe et ma chevelure hirsute. Je leur expliquais qu'on nous avait renvoyés au pays à bord d'un cabotier outrilien mal entretenu, que nous avions fait un très mauvais voyage et que nous étions bien soulagés d'être enfin à destination. Lourdes ne se fit pas prier pour renchérir sur ma piètre opinion des bateaux. Les soldats nous pressèrent de questions, mais je leur répondis que le début de notre voyage de retour remontait à quelque temps, que le trajet n'avait que trop duré et que j'avais ordre de me présenter devant la reine avant de rien annoncer publiquement. Ils nous laissèrent passer. À 7 heures du jour, on rencontrait surtout des hommes d'armes et des domestiques dans le château. J'abandonnais Lourdes aux cuisines. Les occupants de la salle de garde avaient appris à tolérer la présence du compagnon du prince. Ils plaisanteraient avec lui, non sans rudesse, écouteraient ses histoires et les mesureraient à leur aune. S'ils se vantaient d'avoir vu des dragons, pénétrer dans des piliers magiques ou rencontrer des hommes noirs, ils prendraient ces affirmations avec un solide grain de sel. Je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Et c'était là qu'il serait sans doute le plus en sécurité. En outre, il aurait la bouche trop pleine pour pouvoir parler beaucoup. Je le laissai donc devant un repas chaud, en lui recommandant, après s'être restauré, d'aller se coucher dans sa chambre ou de chercher Sada, de lui demander un bain et de bien insister sur le fait que nul n'avait succombé au mal de mer pendant l'expédition. J'emportai un petit pain frais et le dévorai en me rendant au baraquement. L'air tiède me paraissait chargé d'odeur par contraste avec l'atmosphère froide et stérile dans laquelle j'avais passé les dernières semaines. Je trouvai la section des gardes de la longue caserne basse déserte et poussiéreuse. Je me débarrassai de mes épais lainages. Je mourais d'envie de prendre le temps de me laver et de me raser, mais je me bornais à enfiler un uniforme propre. J'aspirais encore plus à m'affaler sur mon lit, mais il me fallait voir la reine le plus vite possible. Je savais aussi qu'elle ne m'attendait pas si tôt. Je gagnai ensuite la salle qui donnait sur les dépenses et les gardes-mangers des cuisines. Je vérifiai que nul ne pouvait m'apercevoir, puis m'introduisis dans l'office dont l'armoire était munie d'un faux fond. On y rangeait les jambons et les saucisses fumées, et je chipais une de ces dernières avant de refermer la porte dérobée derrière moi et d'entamer la longue ascension des degrés. J'avançais à tâtons, les mains tendues devant moi, car il régnait une obscurité de poids dans les marches. J'avais terminé le produit de ma rapine quand j'arrivai à l'entrée de la salle d'imbre, poussai la porte et franchis l'ouverture. Je fus accueilli par des ténèbres empreintes d'une odeur de moisie. Je trouvai la table de travail, aux dépens de ma hanche, sacrée, puis me dirigeai à l'aveuglette vers la cheminée, sur le manteau de laquelle je pris la boîte d'amadou. Quand je parvins enfin à obtenir une maigre flamèche dans l'âtre à l'abandon, je me hâtai d'y allumer les bougies à demi consumées du candélabre posé sur le linteau afin d'éclairer un peu la pièce. Puis j'alimentai le feu, davantage pour sa lumière que pour sa chaleur. Les êtres avaient pris un aspect lugubre, la poussière s'était déposée partout et l'air avait croupi. La flambée assainirait l'atmosphère. Je sentis la présence de Girofle un instant avant qu'il jaillît d'une de ses cachettes, tout excité à l'idée du retour de ceux qui apportaient des saucisses. Quand il constata qu'en fait de saucisses, je n'emportais que le parfum et quelques traces de graisse sur les doigts, il me donna un petit coup de dent mécontent et tenta d'escalader ma jambe. « Pas maintenant, mon petit ami. J'irai te chercher des friandises plus tard. Je dois d'abord me rendre chez la reine. » Rapidement, je nouai mes cheveux en queue de guerrier. J'aurais voulu avoir le temps de mieux m'apprêter, mais je le savais. Sa Majesté préférerait me voir débraillé qu'attendre que je me pomponne. J'empruntai à nouveau les couloirs secrets par lesquels je gagnais la porte qui donnait sur une pièce dissimulée des appartements de la reine, et de là, dans son petit salon privé. J'y collai l'oreille, peu désireux de me présenter impromptu si elle avait de la visite, et je faillis m'effondrer quand Ketriken l'ouvrit brusquement.
« J'ai entendu vos pas. Oh, j'ai l'impression d'avoir passé la journée à vous attendre. Que je suis heureuse de vous savoir revenu, Fitz, de pouvoir enfin parler à quelqu'un sans contrainte. »
Je ne reconnaissais pas la reine calme et posée dont j'avais l'habitude. Elle avait l'air hagarde et angoissée. La pièce elle-même, qui respirait ordinairement la sérénité, frôlait le désordre. Sur la table basse, la mèche des bougies blanches était trop longue et un verre de vin au quart plein traînait, abandonné. Une théière et des tasses disposées à notre intention trônaient au milieu d'un semis d'herbe à tisane et sur un coin du meuble reposaient deux manuscrits traitant des îles d'outre-mer et de leurs coutumes. Je devais apprendre plus tard que les messages sporadiques et sibyllins envoyés par Imbre et Devoir par le biais d'Ortie n'étaient pas seuls responsables de son état de nerf. Un conflit ouvert s'était déclaré dans les six duchés entre le lignage et l'épi pendant notre absence, et depuis 3 semaines, elle affrontait des meurtres et des représailles qui entraînaient d'autres meurtres et représailles. Bien qu'on n'eût pas signalé d'assassinat au cours des 6 derniers jours, elle redoutait toujours qu'on frappât à sa porte et qu'on lui remît un bâton de messager. L'ironie du sort voulait qu'elle, qui avait imposé à ses nobles la tolérance envers les vifiés, dût voir à présent les mêmes vifiés s'entre-déchirer. Mais nous ne parlâmes pas de cela ce matin-là. Elle me demanda un compte-rendu complet afin de mieux fonder les décisions que Devoir et Imbre exigeaient d'elle. Je m'exécutais docilement, mais elle m'interrompit presque aussitôt. En quoi ma première entrevue avec le Hedgurd se rattachait-elle avec les événements présents? Pensais-je que la famille d'Eliania nous en voudrait de l'emmener chez nous pour la sacrée souveraine de notre royaume? La jeune fille acceptait-elle de bonne grâce de s'unir à Devoir? À la 5e interruption du même genre, elle se reprit.
« Pardon. »
Elle s'assit sur un banc bas près de la table. Je la sentais contrariée que je n'eusse pas assisté au retour de l'expédition d'Aslevial à la maison maternelle d'Eliania. Mon absence m'empêchait de lui donner mon opinion sur les réactions des Outriliens devant l'apparition du dragon. Comme elle s'apprêtait à poser une nouvelle question, je l'arrêtai de la main. Pourquoi ne pas contacter le prince ou le conseiller Imbre? C'est pour cela que je suis revenu. Qu'ils répondent à vos questions les plus pressantes, puis, si nécessaire, je vous rendrai compte en détail de tout mon périple. Elle sourit.
Vous parlez aujourd'hui de votre magie comme d'une chose naturelle. Moi, elle continue de me surprendre.
Ortie opère de son mieux, et c'est une jeune femme charmante, mais Imbre à l'obsession du secret et les messages de Devoir semblent contraints.
Joignez mon fils, s'il vous plaît.
S'ensuivit la séance d'art, la plus fatigante que j'eusse jamais endurée. Je m'étais préparé à une importante dépense d'énergie, mais ce matin-là, je compris véritablement le rôle que jouaient les clans d'antan auprès de leur roi. Connaissant le cœur de mère de Ketriken, je contactai d'abord Devoir, qui m'exprima sa joie de me découvrir revenu sain et sauf à Castelserre. Là-dessus, il se lança dans un épanchement plein d'émotions destinées à la reine, si abondant que j'eus du mal à suivre son débit, avec une familiarité qui convenait à la relation qui les unissait mais que j'avais du mal à rendre. Quand il passa à l'exposé de ses réflexions sur les événements qui avaient émaillé son voyage, j'eus là encore quelque peine à ne pas le corriger, car, inévitablement, son point de vue ne coïncidait pas parfaitement avec le mien. Il expliqua qu'il avait proposé à Eliania de la libérer de leurs promesses mutuelles, après qu'ils avaient frôlé la dispute. Elle ne voyait nulle raison qui lui interdisait de se marier et de demeurer néanmoins Narcesca des Narval, cependant que Devoir vaquait à ses occupations, allait et venait ainsi que les autres époux et amants. Par mon biais, il confia à sa mère qu'il l'avait profondément vexée, en répondant qu'il ne pouvait pas renoncer à son trône pour devenir son époux.
« Pourquoi pas ? » m'a-t-elle alors demandé.
« N'exigeais-je pas d'elle le même sacrifice, l'abandon de son foyer, de sa famille et de son titre pour devenir mon épouse dans une terre étrangère ? Pis encore, ne dépouillais-je pas à l'avance son clan des enfants qui devraient lui revenir en toute légitimité ? Ça a été une scène pénible, mère, où elle m'a montré la situation sous un jour complètement nouveau. Aujourd'hui encore, quand j'y songe, je m'interroge sur la justesse de notre entreprise. Mais elle serait reine chez nous. Ces gens n'accordent-ils aucune valeur à l'honneur et à la puissance qui s'attache à ce titre ?
Quand j'eus transmis la question de Ketriken, je sentis du regret dans la réponse de son fils.
Elle ne serait plus du Nerval. Tout d'abord, sa mère a refusé de la laisser partir, et Eliania s'est fâchée. Elle a menacé de quitter son clan sans la permission maternelle. Il régnait une tension effrayante. Péotr s'est rangé de son côté, mais pratiquement toutes les femmes du clan s'opposaient à elle. Sa mère a déclaré que, si elle s'en allait, elle abandonnerait les siens pour devenir une. Enfin, bref, le terme est intraduisible, mais il n'a rien d'honorant pour une femme. Il désigne une personne qui vole les siens pour donner à des étrangers. Nombre de leurs lois, y compris celles qui régissent l'hospitalité, soulignent qu'il faut subvenir avant tout aux besoins de la famille. Il s'agissait donc d'une grave insulte.
Je fis part au prince de l'inquiétude de Ketriken. Mais la question est résolue à présent. Elle quittera son peuple avec son honneur intact ?
Je pense.
Sa mère et la grande mère ont donné leur consentement.
Toutefois, vous savez comme moi que la parole ne reflète pas toujours la pensée, tout comme certains de nos nobles tolèrent le lignage en s'en tenant à la lettre de la loi, mais sans réelle volonté de justice.
Je ne sais que trop ce que tu veux dire.
Il s'est déroulé des événements tragiques ici, Devoir, depuis votre départ. J'y ai paré au mieux, mais j'attends avec impatience le retour de Tram. Il y a eu des effusions de sang épouvantables, et beaucoup de mes nobliaux murmurent qu'ils l'avaient prédit, que les vifiers ne valent pas mieux que les bêtes avec lesquelles ils s'unissent, et que, libérés du frein de la sanction, ils s'entremassacrent à cœur joie. L'ardeur des membres du lignage a éliminé les pies, a noirci la réputation des vifiers plus qu'elle ne l'a blanchie.
Leur conversation se poursuivit ainsi, sautant d'un sujet à l'autre. Au bout d'un moment, j'eus l'impression qu'ils avaient oublié ma présence, tandis que je m'enrouais la voix à répéter tout ce que Devoir souhaitait dire à sa mère. Je perçus son soulagement, que ni Imbre ni Horty n'y participa. Il confia à Ketriken les doutes qui l'assaillaient, mais aussi les petites victoires qu'il remportait et savourait dans la cour qu'il faisait à sa fiancée. Elle aimait une certaine nuance de vert, et il s'efforça de la décrire du mieux possible, car il espérait qu'on pourrait l'intégrer à la décoration des appartements d'Eliania, à Castelser. Il égrena aussi plusieurs griefs sans gravité à l'encontre d'Imbre, sur la façon dont il avait mené les dernières négociations, et plusieurs domaines dans lesquels il voulait que la reine serre à la bride aux conseillers. Là-dessus, la souveraine et le prince se trouvèrent en désaccord, et je dus à nouveau me tenir à quatre pour rester strictement dans mon rôle d'intermédiaire et me garder d'ajouter mon grain de sel à leurs échanges. Et peu à peu, tandis qu'ils usaient de ma magie dans l'intérêt du trône loin-voyant, je pris conscience de la présence du courant d'art. L'attraction qu'il exerçait sur moi avait changé. Ce n'était plus l'impulsion tentatrice de me jeter dans le fleuve et de m'y perdre que je connaissais bien. L'impression m'évoquait plutôt celle d'une mélodie provenant d'une pièce voisine. Une ravissante mélodie qui détourne l'attention jusqu'à ce qu'on s'y immerge totalement. D'abord lointaine, comme un grondement de rapide qu'on perçoit alors qu'on navigue encore dans des méandres calmes, elle m'attira, mais doucement, et je crus y rester insensible. Les propos du prince et de la reine s'écoulaient à travers moi, et je n'avais guère à prendre garde à ce que je disais, ni aux pensées que j'envoyais à Devoir. Progressivement, il me sembla que l'art lui-même s'écoulait à travers moi, comme si je fusse devenu le fleuve de magie. Et il fallut que la reine se penchât et me secouât rudement pour me réveiller brusquement.
« Fitz !»
cria-t-elle, et je transmis docilement à devoir.
« Vite !»
Puis, « Sortez-le de sa transe par tous les moyens. Jetez-lui de l'eau à la figure, pincez-le. Je crains de me retirer tout de suite. Il risque de sombrer tout à fait. »
Comme je répétais ces mots à Ketriken, elle prit sa tasse de tisane, désormais presque froide, et m'en éclaboussa le visage. Je crachais, toussais, puis repris conscience de mon environnement.
« Pardonnez-moi, » dis-je, en m'essuyant avec ma manche. Ça ne m'était encore jamais arrivé, du moins, pas de cette façon.
La reine me tendit un mouchoir.
Nous avons connu de petites difficultés du même genre avec Orti. C'est une des raisons pour lesquelles Imbre voulait que vous arriviez ici au plus vite.
Il y a fait allusion, en effet. Dommage qu'il ne m'ait pas fourni plus de détails. Je me serais débrouillé pour revenir plus tôt.
Il faut la former à l'art, Fitz, et sans attendre. Il aurait d'ailleurs fallu commencer il y a bien longtemps.
Je m'en rends compte à présent, avouai-je avec humilité. Bien des choses aurais-tu commencé il y a longtemps. Mais maintenant que je suis de retour, j'ai l'intention de m'y atteler bientôt.
Pourquoi pas tout de suite ?
Demanda Ketriken tout uniment.
Je puis appeler ma chambrière et l'envoyer chercher Orti. Vous pouvez faire connaissance dès maintenant ?
Un effroi sans nom me saisit.
Non, pas tout de suite.
Je me repris.
Pas ainsi, madame, je vous en prie.
Permettez-moi d'abord de me laver, de me raser et de me reposer. J'inspirai profondément.
Et de me restaurer,
ajoutai-je en m'efforçant d'effacer toute note de reproche de ma voix.
Oh, Fitz, pardonnez-moi. J'ai laissé mes besoins et mes désirs prendre le pas sur les vôtres. Quel égoïsme,
je m'en excuse.
Non,
il le fallait, lui assurai-je. Voulez-vous que je joigne devoir à nouveau ? Ou Imbre, vous ne savez pas encore tout de l'expédition, loin de là.
Pas pour l'instant.
J'estime préférable que vous vous absteniez d'artiser un moment. J'inclinai la tête. Seul dans mon esprit, j'éprouvais une sensation de vacuité, comme si j'étais incapable de former une pensée personnelle. Cela dut se voir sur mon visage, car Ketriken se pencha pour poser la main sur la mienne.
Un peu d'eau de vie, Sir Fitz Chevalerie ?
S'il vous plaît, répondis-je, et ma reine se leva pour aller quérir de l'alcool. Quelque temps plus tard, je rouvris brusquement les yeux. J'avais un châle sur les épaules, et mon menton reposait sur ma poitrine. Mon verre plein m'attendait sur la table devant moi. Ketriken se tenait assise, en silence, le regard baissé sur ses doigts croisés. Je compris qu'elle méditait et ne souhaitait pas la déranger. Mais elle parut s'apercevoir de mon réveil presque aussitôt que je relevais les paupières. Elle m'adressa un sourire là.
« Ma reine, je vous présente mes plus humbles excuses. Vous êtes debout depuis longtemps. »
Elle étouffa un petit bâillement et poursuivit. « J'ai demandé un petit déjeuner et j'ai prévenu ma chambrière que j'avais une faim de loup. Elle voudra ranger cette pièce avant de disposer les affaires. Cachez-vous et attendez que je vous fasse signe. » Je restai donc quelques moments assis dans le noir sur les marches derrière le panneau secret. Je fermai les yeux, mais sans m'endormir. Néanmoins, ce n'étaient pas les fardeaux des six duchés qui pesaient sur mes pensées. Je n'avais là-dedans qu'un rôle d'instrument. Je mangerai en compagnie de la reine, ferai un tour aux étuves, me raserai, prendrai un peu de sommeil, puis trouverai un moyen de sortir discrètement du château pour regagner les pires témoins. Mais d'abord, je chapardrai des provisions dans les gardes-manger, du fromage, des fruits et du vin pour le fou et l'homme noir. Sans doute aussi, du pain frais leur ferait-il plaisir. Je souris en songeant à leur joie devant ce changement de leur ordinaire. Peut-être le fou irait-il mieux et se trouverait-il en état de voyager. Dans ce cas, je les ramènerai tous deux à Castelserre où mon ami recevrait les meilleurs soins. Et enfin, je serai libre d'aller chez Molly pour combler l'abîme des ans. J'entendis la reine toquer au panneau. Elle avait profité de l'interruption pour se peigner et changer de robe. Le petit déjeuner qui trônait sur la table aurait amplement suffi à l'appétit de plusieurs personnes. De la vapeur montait d'une tisanière à motif de fleurs, et je sentais l'odeur du pain frais et du beurre qui fondait dans le gruau bouillant, à côté d'un ramequin plein d'épaisses crèmes jaunes.
« Venez vous restaurer, » me dit-elle, « et, si vous pouvez encore parler, racontez-moi vos aventures et la façon dont vous avez réussi, lourez-vous, à revenir aussi vite. »
Je mesurais alors toute la confiance que la reine plaçait en moi. On avait omis nombre d'informations dans les messages que lui transmettait Horty afin de préserver les secrets d'Ambre, et on ne lui avait appris mon retour qu'à travers de subtiles indications. Néanmoins, elle avait eu la conviction que je retournerais auprès d'elle. Aussi, tandis que nous mangions, entrepris-je presque malgré moi de lui donner un nouveau compte-rendu. Elle savait écouter, et elle avait été ma confidente plus d'une fois au cours des ans. Peut-être cela explique-t-il que je lui dévoilais la vérité bien plus qu'à quiconque. Je lui relatais ma quête de la dépouille du fou dans la cité, et elle ne chercha pas à retenir ses larmes quand je lui décrivis dans quel état je l'avais découvert. Puis, ses yeux clairs exprimèrent l'étonnement quand je lui narrais par quels moyens nous étions retournés à la place abandonnée, et à elle seule je confiais mon incursion dans la mort. À elle seule je narrais notre visite au dragon et la restitution de la couronne au coq. Une fois seulement elle me coupa. Je venais de lui dire que j'avais débarrassé Vérité le dragon de la poussière et des feuilles mortes qui s'étaient déposées sur lui. Aussitôt, elle me saisit le bras dans une poigne fraîche mais dure. « Par ces piliers, si vous me teniez par la main, vous pourriez me conduire à lui ? Ne fût-ce qu'une fois ? Je sais que je ne le retrouverai pas vraiment, mais rien que toucher la pierre qui l'emprisonne. Oh, Fitz, vous n'avez pas idée de ce que cela représenterait pour moi.
Faire traverser un pilier à quelqu'un qui ne possède pas l'art.
J'ignore comment votre esprit supporterait cela.
L'opération pourrait se révéler pénible, voire dangereuse, ma reine.
Je répugnais à lui faire courir de tels risques, mais plus encore à la décevoir.
Et de voir,
poursuivit-elle, comme si elle n'avait pas entendu ma mise en garde. Devoir doit voir une fois au moins le dragon de son père. Le sacrifice de Vérité prendrait un aspect plus concret, et il verrait peut-être le sien sous un jour moins douloureux. Son sacrifice ? N'avez-vous donc pas entendu ce qu'il ne pouvait exprimer ? En tant qu'homme, il aurait pu rester dans les îles d'outre-mer avec Eliania, devenir son époux et se voir accueillir par sa famille. En tant que prince, cela lui est interdit. Il ne s'agit pas là d'un mince sacrifice, Fitz Chevalerie. Certes, Eliania l'accompagnera chez nous, mais un mur en restera toujours dressé entre eux. Vous-même savez par expérience à quel point il est cruel de trahir celle que vous aimez à cause de votre devoir envers votre peuple.
Sans me demander si mon projet était raisonnable, je répondis :
Je vais la rejoindre.
Ce sacrifice-là touche à son terme. Burik mort, plus rien ne nous sépare. Je vais reprendre ma Molly.
Au silence qui suivit ma déclaration, je compris que j'avais choqué ma reine. Pour finir, elle dit avec douceur « Je me réjouis que vous ayez enfin pris cette décision. Mais entendez-moi en tant que femme et amie. Ne vous précipitez pas pour retrouver Molly. Laissez d'abord son fils rentrer et laissez le temps à sa famille de se remettre de sa terrible blessure. Ensuite, approchez-la, mais soyez vous-même. »
Ne vous présentez pas comme un homme qui vient prendre la place de Burik. J'avais reconnu la sagesse de ces paroles alors même qu'elle les prononçait. Mais mon cœur me hurlait de courir chez Molly sans attendre pour commencer, le plus tôt possible, de combler les années perdues. Je courbais le cou, soudain conscient de l'égoïsme de cet élan. Il me serait difficile de me tenir à l'écart et de réfréner mon impatience, mais il le fallait. Pour le bien des enfants de Burik.
Cela vaut aussi pour Horty, reprit Ketriken implacable. Elle comprendra bientôt qu'un changement est intervenu, quand elle constatera que je ne fais plus appel à elle pour me transmettre les messages de devoir. Toutefois, si vous m'en croyez, ne hâtez rien, et surtout, ne cherchez pas à remplacer son père, car Burik était son père, Fitz. Sans que vous y ayez quelque responsabilité, et il le restera. Vous devrez trouver un autre rôle à jouer dans sa vie et vous en satisfaire.
Propos difficile à entendre et plus encore à accepter.
Je sais, je soupirai.
Je lui enseignerai l'art. Ce temps-là, au moins, n'appartiendra qu'à nous deux.
Je repris le fil de mon récit et quand j'en atteignis le terme, la tisanière était vide. Je restais un peu confus devant les plats vides, auxquels Ketriken n'avait sans doute guère touché. Les yeux irrités, je battis des paupières et je m'efforçais de dissimuler un grand bâillement. La reine me regarda d'un air fatigué. « Allez dormir, Fitz. »« Merci, votre majesté. » Puis, sachant bien que je n'étais pas censé connaître l'identité de l'élève du vieux conseiller, je demandai « Si vous aviez la bonté de parler à l'apprenti d'Ambre, cela me serait d'une grande aide. » Il faisait déposer des fournitures dans la troisième resserre de la salle de l'Est pour que l'Our les apporte dans sa tour. Dès que le fou pourra voyager, j'ai l'intention de le ramener à Castelserre, et il se trouverait peut-être le mieux dans la pièce secrète en attendant de pouvoir se défaire de son personnage de cire dorée. L'apprenti d'Ambre pourrait y reconstituer les réserves si elle... Je me mordis la langue. Je m'étais coupé, trahi par l'épuisement. La reine me regarda avec un sourire indulgent. Je dirai à Dame Romarin de prendre les dispositions nécessaires. Et si je dois vous voir... Je réfléchis un instant, puis l'évidence me sauta aux yeux. Priez Ortie de contacter l'Our. Elle secoua la tête. Je compte la renvoyer parmi les siens quelque temps. Ils ont besoin d'elle. Dans les circonstances présentes, il est cruel de les tenir séparés. J'acquiesçai. L'Our ne quittera pas le château, lui. Vous pourriez le garder à vos côtés. Cela l'occuperait et l'empêcherait de raconter à qui voudrait l'entendre comment il est rentré. Elle opina gravement. Je m'inclinai, saisi soudain d'une terrible fatigue. « Allez, Fitz, et que mes remerciements vous accompagnent. » « Oh !» Sa brusque exclamation m'alerta. « Qu'y a-t-il ? » ? « On attend Dame Patience. Elle m'a annoncé sa visite en même temps qu'elle m'a déclaré souhaiter donner Flétribois à Dame Ortie. Elle m'a également prévenu qu'elle désirait me consulter sur d'importantes questions concernant certains héritages à prévoir dès à présent. » Inutile de tourner autour du pot. Elle s'est sûrement courtier, ma fille. Aida ait pitié de la pauvre enfant si Patience a décidé de prendre en main son éducation. J'eus un sourire mi-figue mi-raisin au souvenir des leçons dont m'avait abreuvé jadis l'épouse de chevalerie. La reine hocha la tête, puis demanda d'un ton solennel. « Quel est le dicton, déjà ? Tous vos poulets sont rentrés au poulailler ? » ?»« Je crois, oui. » Mais curieusement, ma reine, je me réjouis de les voir. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. D'un signe de tête, elle me congédia. Je sortis, et la remontée jusqu'à la tour d'Ambre me parut interminable. Quand j'arrivai enfin, je m'allongeai sur le lit, fermai les yeux et tentai de m'endormir. Mais j'eus tout à coup le sentiment que le fleuve d'art était tout proche. Peut-être cela tenait-il à ce que j'avais longuement artisé pendant la matinée. J'ouvris les paupières et m'aperçus que je dégageais une odeur peu agréable. Avec un soupir, je me résolus à me laver avant de me laisser aller au sommeil. Une fois de plus, je traversai l'immense château, en évitant la salle de garde et l'inévitable barrage de questions qui m'y attendait. Je trouvai les étuves à peu près désertes à 7 heures du jour. Les deux gardes que j'y rencontrais ne me connaissaient pas. Et ils me saluèrent avec affabilité, mais sans curiosité. J'en fus aussi soulagé que de me raser. Après un soigneux décrassage qui me laissa l'impression d'être un légume blanchi à l'eau bouillante, je ressortis propre comme un sous-neuf et prêt à dormir. Ortie m'attendait devant les étuves.